Nous ouvrons donc la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, et comme je vous ai dit la dernière fois, je n'ai pas l'habitude de mettre des versets dans le PowerPoint. J'aime beaucoup qu'on ouvre la Bible ensemble. Mais le livre de Proverbes est un de ces livres où, des fois, pour développer un sujet, on doit se promener un peu. Alors, je me suis permis de mettre des versets sur l'écran que nous allons regarder ensemble sur ce sujet des relations rétablies, des relations brisées. Et je dois vous dire que ça fait environ 2 ans que je prépare ce sujet. Je ne l'ai jamais présenté et je le fais avec tremblement. Puis je sais qu'ici, il n'y a jamais eu de relations brisées. Et je sais que dans vos familles, puis au travail, puis ici au sein de votre église locale, puis avec vos amis, ça n'existe pas de relations brisées. Mais vous êtes la seule église comme ça au Québec. Alors, je me permets de parler sur ce sujet-là important. Alors, nous lisons la parole de Dieu d'abord dans Proverbe 10:18. « Celui qui dissimule la haine des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. » Proverbe 11, versets 12 et 13. « Celui qui méprise son prochain est pourvu de sens. » Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Proverbes 17 et 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui le rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbes 28, versets 17 et 18. « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. » Et Bruce Waltke, auteur de mon commentaire préféré sur les Proverbes, dit que la colère de Dieu se détourne de lui, mais tourne vers vous. Proverbes 24, 28, 29. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il me fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. 25, versets 9 et 10. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. 25, versets 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu lui amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Et enfin, chapitre 27, versets 5 et 6, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » J'aimerais commencer en vous faisant une petite remarque sur les proverbes. Vous savez que quand j'achète une voiture neuve, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, je pense, on donne une garantie de 5 ans, 100 000 km ou quelque chose de semblable. C'est une garantie. On achète un frigo. Je m'en vais en France cet après-midi. Là, j'ai des frigos d'eau. Je dirais frigo, je ne dirais pas frigidaire. Et on achète un frigidaire, c'est une garantie de 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais j'aimerais vous dire que le livre de Proverbes, ça ne donne pas des garanties. Ce n'est pas des promesses, c'est des préceptes. Par exemple, dans le livre de Proverbes, on nous dit que si on travaille très fort et on gaspille pas notre argent, on va être riche. Puis si on est paresseux, on va être pauvre. C'est un bon principe, mais est-ce que c'est toujours vrai ça? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont travaillé très fort qui sont pauvres? Est-ce que vous connaissez des paresseux qui ont hérité de l'argent ou bien qui ont gagné de l'auto? Est-ce que ça existe, cela? Alors, vous comprenez que ce n'est pas des garanties. Ce n'est pas des promesses. Et je pense que l'exemple le plus terrible, c'est ce verset qui nous dit « Élève tes enfants comme faux, puis ils vont bien tourner. » Hein? Puis quatre parents qui se culpabilisent avec ça. Hein? Est-ce que c'est une garantie? Est-ce que c'est un principe? Pour voir la différence, le livre de Proverbes écrit avec la vision d'une maman parfaite créée par un Dieu, avec une toile de fond, avec un univers qui marche comme Dieu l'a voulu, mais notre monde, notre société, on est tombé à cause du péché. Puis le livre de Proverbes donne des principes qui, généralement, c'est comme ça que ça marche, mais il y a des exceptions. Alors, ne cherchons pas dans le livre des Proverbes aujourd'hui, dans notre étude et quand on étudie le livre de Proverbes, des garanties, des principes, des préceptes, pas des promesses. Ce matin, nous allons faire une petite introduction. Nous avons quatre points. Pour rétablir les relations brisées, il faut d'abord rejeter le sentiment de supériorité. Deuxièmement, libérer l'autre de ses dettes. Troisièmement, vaincre le mal par le bien. Ça a été lu quatre fois. Vaincre le mal par le bien, confronter seulement si nécessaire, puis on va tirer une conclusion. Je commence à craindre que j'ai envoyé la version originale et pas la version corrigée en normand. Alors, s'il y a des fautes, c'est ma faute, c'est pas la faute de la correcteur. Vous savez que définir la sagesse dans le livre de Proverbes, c'est pas toujours facile. C'est encore plus facile que discerner le mal du bien. Parce que nous faisons souvent face à des questions qui ne sont pas résolues par les 10 commandements, par les règles de moralité. Et par exemple, nous avons un reproche adressé à un ami. C'est notre ami, puis tu crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, puis il faut que tu adresses des reproches à cet ami-là. Et c'est difficile de faire cela, c'est difficile de le dire. Et c'est encore plus difficile pour la personne de l'entendre des fois. Et la sagesse va nous aider à savoir. Bon, d'abord, c'est-tu vraiment nécessaire de le dire? Des fois, il faut laisser passer. Quand est-ce qu'il faut le dire? Aujourd'hui? Dans 2 semaines? Dans 1 an? Comment le dire? Comment l'exprimer? Mal confronté pourrait ruiner des relations pour toujours, hein? Et même bien confronté, des fois, ruiner des relations pour toujours. Ça peut arriver, cela-là. J'aimerais qu'on commence avec un petit examen de cœur, mon cœur en premier. Le passage que nous avons lu dit « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. » Mettons, calomnie n'est pas nécessairement complètement faux. Hein? Calomnie, c'est une vérité tordue, partielle, dans le but de détruire la réputation d'une autre. Et le mot « haine » ici ne parle pas nécessairement d'une haine qui brûle, qui saute, qui crie, mais d'une malveillance, de mauvaise volonté envers une personne. On a l'expression en anglais que j'aime beaucoup, « ill will », malveillance, le traduit bien peut-être. Celui qui dissimule la haine à des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Nous cachons notre haine à la personne. Et des fois, nous cachons notre haine à nous-mêmes. On le nie. Hein? Mais notre haine finit toujours par sortir dans la calomnie. Et j'aimerais vous définir que la calomnie est toute communication qui veut abaisser la réputation d'un autre. Puis des fois, nous avons besoin de nous examiner, puis on doit se poser la question, est-ce que j'ai dit cela pour abaisser la réputation d'un autre? Et peut-être en même temps rehausser ma propre réputation. Hein? Et ça, c'est la calomnie. Proverbe 24 nous dit ceci, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne te détourne de lui sa colère. » Voilà un examen du cœur. Est-ce que nous trouvons notre bonheur dans le malheur d'un autre? Il y a quelqu'un qui nous a blessés. On en veut à cette personne-là. Puis quand on voit que ça va mal dans sa vie, on est content. Nous sourions de l'intérieur quand un autre vit une chute. Mais dans Proverbes 10, verset 18, on appelle une personne comme ça un insensé. C'est fort, hein? Un insensé. dans le livre de Proverbes, un insensé est dangereux. Et une attitude comme ça nous rend dangereux pour ceux qui nous entourent et beaucoup dans l'Église locale aussi. Quand nous nous réjouissons du malheur de notre cher ami, nous devenons l'esclave de cette personne-là. Hein? Et le pouvoir de la malveillance forme notre caractère puis forme notre intérieur. Et ce qui est le plus terrible, c'est que nous devenons comme ça que nous détestons. Quand nous entretenons la haine, la malveillance envers quelqu'un, malgré nous, on devient comme ça que nous avons détesté. Proverbe 11 dit ceci, nous l'avons lu tantôt, « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » On peut remarquer ici comment le mépris de l'autre nous conduit à la calomnie. On méprise quelqu'un. On est dans la section « Rejeter la supériorité ». Le mépris, quand on méprise quelqu'un, on la calomnie. Et nous ne pouvons pas maintenir notre colère envers une autre personne si nous ne le sentons pas supérieur à eux. Pour maintenir notre colère envers quelqu'un, il faut avoir dans notre cœur des cœurs, on se dit « Je suis meilleur que lui ». Vous remarquez ici comment le mépris de l'autre. J'ai vraiment pas la bonne version, excusez-moi. Remarquez aussi le contraste entre l'insensé qui répand la calomnie et le sage qui contrôle ses paroles. Le livre de Proverbes est rempli de contrastes entre l'insensé et le sage. Puis on veut être sage. Mais une des choses qui caractérise une personne sage, c'est qu'il contrôle ses paroles, tandis que l'insensé répand la calomnie partout. Non, lorsqu'on méprise quelqu'un comme cela, on a l'attitude, « Moi, je n'aurais jamais fait cela. Moi, je n'aurais pas fait ça. » Bruce Walkie ici suggère que l'insensé se met à la place de Dieu. Et qu'il ne reconnaît pas ses propres péchés. Il n'y a pas un pire aveugle que celui qui regarde l'autre et qui examine l'autre puis voit les péchés de l'autre. Parce que celui empêche d'examiner sa propre vie. Bon, il continue puis il dit, il ne se voit pas comme étant lui-même méprisable devant Dieu. Et il ne voit pas l'autre comme étant créé l'image de Dieu. Il termine sa paragraphe en disant que le mépris de l'autre est enraciné dans notre orgueil. Alors voilà, quand on méprise l'autre, notre relation est brisée. On se croit supérieur à l'autre. On croit que nous autres, on n'aurait jamais fait qu'est-ce qu'il a fait. Puis on examine l'autre, puis on ne se regarde pas. Puis on oublie que l'autre est créé à l'image de Dieu. Puis on oublie qu'on est des pécheurs nous-mêmes. C'est beaucoup plus facile de regarder les péchés des autres que de regarder nos propres péchés, n'est-ce pas? Et ceci est beaucoup plus dangereux que ce que nous pouvons le penser. Beaucoup dangereux. L'expression « dépourvu de sens » veut dire « manque de cœur dans l'hébreu ». Je suis en train de suivre un rafraîchissement, un nouveau cours d'hébreu à l'âge de 70 ans. Ce n'est pas facile. Puis je le suis avec mon épouse qui, malheureusement, à des notes entre 95 et 100, à tous les examens, puis moi, je n'ai pas ça, loin de ça. C'est toujours bon pour un mari de réaliser que son épouse est plus intelligente que lui. J'ai pris beaucoup de temps sur ce passage, puis c'est vrai qu'ici, que le verset qui dit qu'il est dépourvu de sens, dans l'hébreu, ça dit « il manque de cœur ». Il manque de cœur. Je me suis posé la question, j'ai regardé dans à peu près tous les... J'ai deux tablettes, ça de large, dans mon bureau, avec différentes versions de la Bible. Je pense que j'ai regardé dans 25 versions de la Bible différentes. Puis personne n'a traduit « pas de cœur » ou « manque de cœur ». Ils ont tout traduit « dépourvu de sens » ou quelque chose comme ça. Puis je réalise que quand on traduit, il ne faut pas traduire juste des mots, mais la pensée. Puis si on avait mis dans notre Bible en français « pas de cœur », mais on sait qu'est-ce que ça veut dire, hein? « Pas de cœur », ça parle des émotions. Ça parle d'empathie. Mais le mot « cœur », dans la pensée, dans le livre de Proverbes, dans la pensée hébreu et beaucoup plus que ça. Le cœur, c'est notre être, c'est ça que je suis, c'est mes pensées en plus que mes émotions. Et quand nous traitons les autres avec mépris, il y a un problème profond au cœur de notre être. C'est ça que ça veut dire. Et chers amis, parce que nous sommes en rébellion contre l'autorité de Dieu, c'est vrai de tous nous autres. Et parce que nous savons qu'au fond de notre cœur, que ce n'est pas correct, nous voulons constamment nous justifier. N'est-ce pas qu'on aime ça, avoir raison? Hein? Et quand nous voyons des manquements chez les autres, nous sautons sur l'occasion pour dire qu'ils sont inférieurs à nous. Et cela devient pour nous l'évidence que nous sommes supérieurs à eux. Nous nous justifions avec cela. Et dans le désir de nous justifier, nous alimenter notre vision tordue de nous-mêmes. Mais exagérer les fautes des autres, puis en transférer notre vision tordue de l'autre au groupe dont il fait partie, la racine du racisme. C'est ça le racisme, hein? Je devrais normalement retourner au Congo au mois d'avril, puis je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Ça va très mal. J'ai eu une lettre hier soir qui m'a fait mal au cœur. J'ai encore perdu des amis. Hein? Avec les révoltes là-bas, c'est terrible qu'est-ce qui se vit là-bas. Et dans le Congo, il y a 450 langues différentes et 450 tribus différentes. Ici au Canada, nous avons deux langues, puis on a des misères à s'accorder ensemble. Là-bas, ils ont 450 langues différentes. Puis c'est des guerres tribales. Des guerres entre les tribus. Puis ça ne se comprend pas. Mais c'est ça le racisme. C'est que souvent, on voit une personne d'une certaine race qui a une couleur différente, ou une langue différente, ou la forme des yeux différente, je ne sais pas. Puis on voit cette personne-là par le mépris, puis là on dit, il est comme ça, ils sont tous comme ça, n'est-ce pas? La racine du racisme. Il faut rejeter le sentiment de supérieur si on veut se rétablir des relations brisées. Si on veut rétablir les relations, quand ces relations sont brisées, puis on veut rétablir ces relations-là, il faut commencer par rejeter le sentiment de supériorité, boys. Et si nous approchons d'une personne pour nous réconcilier, puis cette personne-là ressent que nous nous pensons supérieurs à lui, c'est certain que ça ne va pas marcher. Hein? Il faut agir avec compassion envers ceux qui tombent ou qui vivent un malheur, même s'ils nous ont blessés. Nous démontrons de la sympathie envers eux. Nous refusons d'utiliser nos langues pour calomnier. Mes chers amis, cela est difficile, cela est contre nature. Il faut rejeter la supériorité. Première étape. Deuxièmement, il faut libérer des dettes. Proverbe 24, nous l'avons lu, « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Proverbe 17 nous dit, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui le rappelle dans ses discours divise les ennemis. » Le langage des dettes. Je rendrai, lui rendrai comme il m'a fait. C'est le langage d'une dette. Il me doit quelque chose, il va me le payer. J'ai écrit quelque chose dans mon PowerPoint, je l'ai effacé, mais je vais le dire. Il va avoir une chienne de ma chienne. Les Québécois ici vont comprendre. Peut-être que si vous êtes un arrière-plan anglophone, vous n'allez pas le comprendre. Mais ça, c'est Québécois. Hein? Ce mot « rappeler », nous savons que nous avons de la malveillance quand nous revenons continuellement à ce qui s'est passé dans nos pensées, dans nos paroles aux autres. Quand nous rappelons une faute, nous exigeons d'être payés. Est-ce que ça vous arrive, vous? Je suis le seul dans le monde comme cela. Je suis rendu à l'âge où que j'aime ça me coucher de bonne heure et me lever de bonne heure. Mais quelque part entre 2 heures du matin et 4 heures du matin, souvent je suis réveillé. Puis qu'est-ce qu'on fait? Mais si on fait le choix, on lit sa Bible ou on prie. Mais il y avait des moments dans ma vie où j'ai repassé les fautes des autres. Je les avais mémorisées. Sans cesse, revenir. On essaie de rejeter, puis ça revient quand même. Est-ce que vous savez de quoi je parle? rappeler des dettes. Quand nous pardonnons une faute, nous assumons nous-mêmes le coût. Il y a quelques années, le voisin, un jeune homme de 21 ans, pauvre, aux études, il fallait qu'elle cherche des médicaments, puis son auto était brisé, puis emprunté mon auto. Il est parti avec. Puis en route, il a manqué de la vitre, puis arrêté, puis on se connaissait bien. Il a pris de la vitre, puis il l'a mis dans l'auto, puis il n'a pas fermé le hood, comment on appelle ça, là, comme il faut. Là. Puis en se promenant, ça a ouvert, puis whoosh, le pare-brise. Qu'est-ce que j'allais faire? Hein? Arrête d'aller à l'université, puis prends-toi un job, puis paye-moi l'auto. J'y ai soumis la dette, vous comprenez? Aujourd'hui, je le vois, cet homme-là, qui est rendu papa, de grands enfants, on s'aime beaucoup. Je ne pense pas à ça, j'ai pensé ça il y a 2-3 jours en regardant l'illustration. J'y ai soumis la dette, vous comprenez? Puis quand on pardonne à quelqu'un, on assume la dette. Il y a 2 façons de pardonner. Et la première chose, c'est de refuser de le rappeler la chose. De le rappeler à soi-même ou de le rappeler aux autres. Et même quand ça fait mal, de ne pas le faire. Je vous dis que si quelqu'un nous a beaucoup blessés, puis si on avait pris l'habitude de repasser dans notre tête à 2 heures du matin ou en conduisant l'auto ou en faisant d'autres choses, de repasser qu'est-ce que cette personne-là m'a fait, si je me rappelle ça, la dette est encore là. Je n'ai pas encore assumé la dette. Et encore pire, si je le rappelle encore à tous les autres autour de moi, c'est une preuve que je n'ai pas pardonné, que je n'ai pas encore assumé la dette. Puis, cela fait mal. Cessez d'en parler. Vous êtes là. Quelqu'un vous dit, telle personne là, il n'est pas pire, lui là, là. Puis là, il t'a blessé ce gars-là, puis pas à peu près. Il m'a vraiment blessé beaucoup. Puis là, il y a quelque chose dans moi qui veut vraiment dire, oui, mais tu sais que. Puis refuser de le faire, ça fait mal. Puis il faut se faire violence. Puis refuser de le repasser dans la tête continuellement aussi, ça fait violence. Et dans le prochain point, nous allons voir une deuxième personne de pardonner. Troisième point, vaincre le mal pour le bien. Oh, ça revient tellement souvent. Il me semble que je ne suis pas capable d'enseigner le livre de Proverbes sans revenir à ces versets. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. C'est tellement contre-culturel. Pas si j'ai dit la dernière fois, j'ai parlé ici des proverbes, que j'ai pris le temps de regarder les proverbes des Babyloniennes et des Égyptiennes qui particulièrement avaient une littérature de sagesse qui était connue par Salomon sans doute parce qu'il y a certains de leurs proverbes qui ressemblent beaucoup aux proverbes dans le livre de proverbes. Et, mais jamais dans cette littérature-là, on dit de faire du bien à notre ennemi. En prendre vengeance sur notre ennemi. Puis l'idée même de pardonner puis de faire du bien à notre ennemi, c'est une vérité chrétienne. Et même du temps de Jésus, les pharisiennes disaient que de se venger, c'était plaire à Dieu. Hein? Vous n'avez pas lu le livre Proverbe, peut-être. L'apôtre Paul reprend cette vérité dans Romains 12. Puis il l'entoure avec une petite explication, une petite exposition. Dans Romains 12, Paul dit ceci, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Puis là, j'ai mis des petits points, mais les versets en Proverbes que nous avons lus vont là. Paul les cite, puis il dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ça, ça veut dire quand quelqu'un nous a fait mal, au lieu d'être vaincu par cette mal-là, on surmonte le mal par le bien. Ça, chers amis, c'est contre-culturel, c'est contre ce que nous sommes. Ça prend un effort important pour faire cela. Parce que la deuxième façon de vivre le pardon, c'est d'agir dans le pardon. Dans la vie, les actions changent nos sentiments. Il y a une histoire qu'on utilise dans la relation d'aide avec les couples, vous l'avez peut-être entendu. On parle de cette femme qui avait un mari qui n'était pas un cadeau. Puis elle a décidé de divorcer. Puis elle voulait vraiment lui faire mal. Puis elle a dit, je vais prendre 6 mois, puis je vais lui faire du bien. Quand il revenait du travail, même s'il avait été méchant avec lui, la vieille, elle l'embrassait, puis elle l'accueillait, puis elle faisait les meilleurs repas, puis elle était gentille avec lui de toutes les façons. Extraordinaire pendant 6 mois. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Après 6 mois, elle ne voulait plus divorcer. Elle avait tant mis l'amour avec. Et c'est une vérité, c'est que dans la vie, les actions changent des sentiments. Il ne faut même pas... Il faut éviter de dire et de penser, je ne veux plus rien savoir de cette personne. Il faut même éviter de dire à cette personne, je te plains, je te pardonne, mais tu fais pitié. Tu comprends, là? Je te plains. Nous n'avons pas vraiment pardonné tant que nous ne désirons pas du bien pour eux. Et quand on fait du bien à la personne, je ne peux pas l'expliquer que c'est vrai. On fait du bien à une personne, puis on vient à l'aimer. Vous avez des problèmes dans votre couple? Essayez ça. Vous avez des problèmes de relation? Faites ça. Les défauts dans leur caractère vous ont blessé? Mais si vous refusez de pardonner, vraiment pardonner, leurs défauts de caractère vous feront plus mal encore. Notre tendance, c'est qu'il m'a assez fait mal, il ne me fera pas mal 2 fois. Hein? Chat échaudé, on dit en québécois. Mais voyez-vous, moi j'ai... À l'âge de 12 ans, ma famille a déménagé à Sorel. Okay? Mon père était dans la marine canadienne, puis je suis arrivé à Sorel à l'âge de 12 ans, où mon père a surveillé la construction de bateaux pour la marine canadienne. Et moi, on m'envoie à l'école française. Je ne parlais pas un mot de français, ni oui ni non. Et j'ai appris le français à l'école, pas à l'école université, là, hein, mais à la petite école. Puis j'ai appris le français, puis il fallait réapprendre le français, oublier certains mots que j'avais appris comme petit gars dans l'école secondaire quand je suis revenu au Québec en 1968. Mais ces expressions-là, je les ai apprises de mes amis à la petite école avant d'apprendre la grammaire. Mais c'est ça que nous le sommes. Hein? Non, si on ne pardonne pas, le mal qu'ils nous ont fait va encore faire plus de mal. Ce n'est pas assez de refuser de répandre la méchanceté par notre méchanceté. C'est déjà quelque chose, là. Il m'a fait mal, je ne vais plus lui faire mal. Non, non, non. Il faut répandre la méchanceté par le bien. Autrement, ils continueront à nous faire mal davantage. Voilà. Et quatrièmement, confronter peut-être. Quatrième point. Les 3 autres, il faut le faire. Quatrième, peut-être. Mais seulement si nous avons vraiment pardonné. Et lorsqu'on confronte une personne qui nous a blessés, si notre pardon et notre amour ne sont pas évidents, ils vont comprendre cela, puis ils vont penser que vous voulez simplement vous venger, puis ça va finir par un cercle vicieux, ils voudraient se venger sur vous, puis ça ne finira plus. Hein? Et j'aimerais vous dire que la psychologie ne peut pas aider avec cela. L'accomplir demande une puissance spirituelle. Proverbe 24 nous dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que celui ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. » J'ai dit tantôt que Bruce Walkie dit que lorsque nous refusons de pardonner et si nous nous réjouissons quand le malheur frappe un ennemi, Dieu est tant en colère envers notre haine qu'envers la personne qui a commis la faute. Intéressante. Je dois vous dire que j'ai expérimenté des choses où une des pensées qui me revenait, c'est que je rêvais que cette personne-là fasse une chute terrible. Puis tout le monde comprenne comment qu'il était méchant, cette personne-là. Méchant que je suis. Hein? Vous n'avez pas des pensées comme ça, vous autres. Quand on fait ça, nous nous mettons à la place de Dieu. Quand nous refusons de pardonner, nous recherchons la vengeance pour être repayés. Nous nous mettons à la place de Dieu. Mais c'est seulement Dieu qui sait ça, dont nous, ça que nous méritons. Dieu sait qu'est-ce que l'autre mérite. Moi, je ne sais pas, moi. Et Dieu sait ce qui fera le plus de bien à la personne qui a commis la faute. Et moi, je ne le sais pas. Il y a 50 ans, presque, dans quelques mois, ça va faire 50 ans, qu'en 1968, j'ai débarqué de l'autobus à Trois-Rivières, jeune homme de 20 ans qui est venu pour être missionnaire au Québec. Ça va faire 50 ans. Je travaille beaucoup dans l'édition de livres, et à cause de cela, j'ai le privilège de voir différents milieux. J'aime tout le peuple de Dieu. J'ai mes petites idées, je viens d'un certain milieu, j'aime tout le peuple de Dieu, je me réjouis de voir ce qui se passe ici à Repentigny, j'aime beaucoup votre sérieux dans l'adoration. Mais je vais vous dire que je suis inquiet. Je ne parle pas de votre église. Je suis assez étudiant dans l'histoire pour savoir qu'il y a eu 3 vagues évangéliques au Québec. Probablement que vous savez que le Québec au début a été peuplé beaucoup par les Huguenots qui sont arrivés de la France. Très intéressant, la ville de Trois-Rivières a le grand pont La Violette. Puis on nous a appris depuis toujours que la ville de Trois-Rivières était fondée par La Violette. Dernièrement, dans le Nouvelliste, le journal local, on a enfin admis que La Violette n'a peut-être jamais existé et que la ville de Trois-Rivières était fondée par un Huguenot. Et c'est tout un difficile à accepter, hein? Oui, le Québec a été peuplé par des Huguenots qui croyaient à l'Évangile. Ça n'a pas fait 2 ou 3 générations. Dans les années 1800, nous avons eu le mouvement presbytérien de la Père Chiniquet ici au Québec. Combien d'églises qui ont été fondées? 100 peut-être d'églises qui ont été fondées ici au Québec. Qu'est-ce qui reste de cela? En 1930, il ne restait à peu près rien. Puis là, nous sommes dans une deuxième vague. Et puis comme un gars qui a investi, j'ai 70 ans, ma santé est fragile, je ne sais pas si je vais vivre encore 10 ans, qui a mis ma vie pour le Québec. Je regarde les églises au Québec, puis vu que je travaille dans le domaine de littérature, je vois beaucoup de choses, puis ce n'est pas à moi de juger, mais je trouve que des fois, dans une église, c'est fragile. Puis oh, j'écris qu'en attendant le retour de notre Seigneur, que nos églises au Québec continue à être fidèle, que le Seigneur bénisse, qu'on évangélise, que le peuple de Dieu devienne nombreux, que nos enfants suivent le Seigneur. Mais il y a des petites choses qui m'inquiètent un petit peu. Mais parmi les choses qui m'inquiètent, on n'est pas capable de s'accorder. On a des chicanes. Des chicanes entre églises, des chicanes entre groupes d'églises, des chicanes à l'intérieur de l'église, n'est-ce pas? C'est une des choses, mais je pense que c'est pire que d'autres choses qui seraient plus grandes et plus évidentes. Mais, oh, chers amis, que ce petit vieux qui a pas mal terminé son service pour le Seigneur, qui a beaucoup à cœur l'avenir de l'Église au Québec, écoute mon cœur ce matin, que le Seigneur nous donne de vouloir rétablir des relations. C'est depuis toujours comme ça. Écoute bien, Caïn a tué Abel, 2e génération. Hein? Puis l'Église, la parole de Dieu est remplie de chicanes entre croyants. Okay? Encore le Seigneur nous aide à rétablir nos relations. Ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire. Obligatoire. Aujourd'hui, quand on a une chicane en chant d'église, au lieu de régler les choses. Conclusion. Comme toujours, il faut regarder à la croix, mes chers amis. Au lieu de chercher la vengeance, au lieu d'exiger la justice, Jésus a pris nos fautes sur lui-même. C'est ce principe que j'ai dit tantôt. Pour pardonner, il faut accepter de payer soi-même la dette. Et Jésus a pris la dette pour nos péchés, il a assumé la dette, il a payé le prix pour nos dettes. Nous avons de la difficulté à pardonner, regardez Jésus. méditer sur ce qu'il a fait pour nous, méditer sur ce qu'il a fait pour moi, méditer sur ce qu'il a fait pour vous. Suivons l'exemple. La psychologie ne peut pas nous aider, c'est une lutte spirituelle. Puis en regardant notre Seigneur, puis en priant le Seigneur, il peut nous donner la victoire, il peut nous apprendre à vraiment pardonner. Prions. Seigneur, tu connais nos cœurs.